Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. L'amitié est son éternelle belle formule, parce que c'était lui, parce que c'était moi, à propos de la relation entre Montaigne et la Boétie. Ce matin, coup de projecteur sur l'amitié masculine. Quelle est sa singularité par rapport à l'amitié féminine? Les amitiés masculines sont-elles vraiment moins intimes que celles qui les femmes, comme le veut une idée répandue? On s'intéressera également aux bandes de potes qui peuvent se révéler à la fois fraternelles, rieuses et profondes, mais qui peuvent aussi se montrer toxique quand elle véhicule sexisme, homophobie et domination masculine. L'un de nos invités, Thomas Messias, appelle même à sortir de l'amitié masculine. On en débat au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Racontez-nous vos amitiés masculines, féminines, mixtes. Et puis avec Philosophie Magazine, nous esquisserons une brève histoire amicale de la philosophie, des amitiés essentiellement masculines, comme celle qui liait Platon à Aristote. Vous retrouverez bien sûr les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine. Bonjour.
Bonjour Ali.
Chef du service Actu de Femmes Actuelles.
On va se parler franchement aujourd'hui. Hein.
Oui.
Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans?
Ah bah oui, bah on sera dans un état. À tout à l'heure. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de vos choses vues?
Alors, nous dégommerons trois mythes toxiques. Celui du grand amour, celui du parent parfait et celui de la chouette bande de potes. Puis, pour nous consoler de tous ces désengages, nous écouterons Albert Camus et René Char nous parler tout de même d'amitié au masculin.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Et n'oublie pas, tu dois m'appeler à la seconde où tu arrives à l'hôtel, pas comme pour la conférence à Phoenix. J'avais dû attendre 2 heures que tu te décides à appeler.
Qu'est-ce qui va pas?
Je sais pas. J'espère seulement que tu ne vas pas aller dans un striptease quand tu seras là-bas.
Ça risque pas d'arriver. Et puis tu sais ce que je pense de ce genre de choses.
Je sais, je sais. Seulement les mecs et leurs enterrements de vie de garçon, c'est répugnant.
Ouais, c'est répugnant.
Et carrément pitoyable. Mm-hmm. Ces boîtes sont immondes.
Ouais.
J'aimerais que tes copains soient aussi matures que toi.
Ils sont matures. En fait, il faut seulement apprendre à les connaître.
On demande le docteur Tantouze. Docteur Tantouze.
Faut que j'y aie.
C'est une bonne idée, docteur Tantouze.
Une certaine idée de l'amitié masculine dans le film Very Bad Trip en 2009. Bonjour Sonia Fertchak.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes essayiste, vous avez notamment publié le manuel d'autodéfense féministe, l'encyclo des filles et récemment La vérité tue Agatha Christie et la famille, c'est chez Philosophie Magazine éditeur. Bonjour Sven Ortoli.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef du hors-série de Philosophie Magazine consacré à l'amitié. Bonjour André Roche.
Oui, bonjour Ali, bonjour à tous.
En duplex de France Bleu Alsace, vous êtes historien, professeur émérite à l'université Marc Bloch à Strasbourg et on vous doit notamment une histoire du premier sexe de la Révolution à nos jours et c'est publié en poche et pluriel. Thomas Messias, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous publiez à l'écart de la meute et c'est ce qui nous a donné envie de faire cette émission ce matin. Alors parmi les innombrables définitions de l'amitié, j'ai retenu celle du philosophe Nicolas Grimaldi. L'amitié est cette communauté d'âmes qui sans explication ni discours rend sensible à l'un tout ce que va sentir l'autre. Alors quelle est autour de la table votre définition, votre conception de l'amitié, Thomas Messias?
L'amitié, c'est pour moi une relation avant tout de confiance, une relation qui ne va pas être unilatérale, mais qui va être dans un échange de soutien, un échange de bons procédés, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter dans les bons moments et dans les mauvais, en fait.
Sven Ortoli ?
Moi, l'amitié, c'est quelqu'un que je rends meilleur et qui me rend meilleur. C'est l'essentiel pour moi.
Sonia Fertchak.
Oui, je souscris assez à cette définition et j'ajouterais que l'ami, c'est celui qui m'amène à me connaître mieux et aussi à être meilleur.
André Roche.
D'abord, il y a l'idée qu'effectivement, on peut compter sur quelqu'un, mais c'est peut-être un peu trop service. Je pense que dans l'amitié, ce qui compte, c'est qu'elle nous donne l'estime de soi.
André Comte-Sponville nous dit dans Philosophie Magazine que l'amitié, c'est d'abord un amour certes, mais sans désir, et c'est un amour qui doit être réciproque, Thomas Messias.
Oui, c'est un amour qui doit être réciproque. On a effectivement des relations dites d'amitié qui se déroulent en fait uniquement dans un seul sens, c'est-à-dire qu'on a toujours la même personne qui va se confier à l'autre, qui va avoir besoin du conseil ou de l'appui de l'autre. Et puis, on n'aide pas un ami pour qu'il nous fasse la même chose en retour, mais quand même, il faut que, en cas de détresse, on puisse soi-même être épaulé par l'ami qu'on avait aidé précédemment. Donc effectivement, une relation qui ne serait pas dans les deux sens, pour moi, ne peut pas être qualifiée de relation d'amitié.
Sylvain Ferchak, vous êtes d'accord avec ce que disait Michel Tournier, la grande différence entre l'amour et l'amitié, c'est qu'il ne peut y avoir d'amitié sans réciprocité.
Oui, c'est exactement ce que j'allais ajouter, c'est que autant on peut aimer quelqu'un et ne pas être aimé en retour, et c'est très difficile, autant on est rarement ami avec quelqu'un qui ne nous aime pas. Donc là, il y a vraiment cette grosse différence, c'est que l'amitié est forcément partagée. Après, là où je souscris à ce que dit Thomas Messia, c'est que c'est vrai que parfois l'amitié, elle n'est pas aussi horizontale et aussi égale. On pourrait paraphraser, certains amis sont plus égaux que d'autres. Mmh. Et c'est vrai que là, c'est compliqué parce qu'il faut, savoir se positionner aussi dans l'amitié. Une chose que je pense très importante, c'est qu'aussi l'amitié a forcément à voir avec la vérité. Mmh. C'est que ça doit nous aider éventuellement à appréhender des amitiés. C'est-à-dire que l'ami, c'est aussi celui de qui on acceptera une critique. Parce qu'on sait qu'elle est son rapport de force, parce qu'elle est bienveillante et qu'elle va nous amener à justement éventuellement prendre conscience de quelque chose qui va pas. Donc il y a aussi cette notion de vérité et de réciprocité.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce proverbe russe qui nous dit que dire la vérité, c'est perdre l'amitié?
Eh ben, alors, j'aime beaucoup. Il y a dans le numéro de Philosophie Magazine sur l'amitié, il y a justement Francis Wolff, qui se pose la question que dire, que taire. Si, moi, je pense que justement, il faut pouvoir. À quoi sert tout à l'heure, André Roche disait, bon, il ne faut pas que ça soit trop utile, mais quand même, à quoi sert un ami si il ne peut pas dire et entendre la vérité? On peut pas. C'est précieux, la vérité, et c'est très douloureux parfois, donc c'est important que ça soit un ami qui nous la dise.
Thomas Messias ?
Totalement d'accord. En fait, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'amitié sans critique. Le problème, justement, dans les relations qui sont qualifiées d'amitié, c'est que parfois, au nom d'une amitié qui serait ancienne de 10, 20 ou 30 ans, on a l'impression qu'on ne peut plus rien se dire et que, justement, il y aura du soutien dans toutes les situations, même si notre ami a commis l'irréparable. Et donc, la critique, elle peut être extrêmement constructive et elle peut, au contraire, permettre de prolonger une amitié et de la rendre, de lui donner encore plus de valeur, en fait.
Alors, Thomas Messias, vous consacrez donc un essai à l'amitié masculine. Alors, je cite à nouveau André Comte-Sponville, hein, qui nous dit que les hommes n'ont souvent que des potes ou des copains quand les femmes entretiennent plus talentueusement et plus tendrement de véritables amitiés.
Alors oui, c'est ce qu'on peut effectivement constater. Il y a évidemment des exceptions, mais on constate que dans les amitiés masculines, et notamment quand elles sont collectives, eh bien, on a une amitié de surface, on a une amitié de loisir, on a une camaraderie, on a beaucoup d'échanges à base d'humour, un humour qui peut d'ailleurs être sexiste par moment, voire même très régulièrement. On a du divertissement. Dès qu'il s'agit de rentrer dans l'intimité, dans l'échange de ressentis, d'émotions, eh bien, en général, chez les hommes, il n'y a plus grand monde.
Mmh. André Roche.
Oui, je voudrais revenir un instant sur la question de la vérité que on se dit entre amis. C'est vrai que si c'est simplement une vérité où on est toujours d'accord avec l'autre pour ne pas le froisser, il faut aussi tenir compte du fait que dans l'amitié, le fait d'être trompé, que l'ami tout à coup se mette à tricher est quelque chose qui perturbe très très profondément notre sentiment et surtout aussi notre relation, car à un moment donné quelque chose se rompt, quelque chose qui était, comme on le disait tout à l'heure, de l'ordre de la confiance, mais qui était aussi de l'ordre de le fait de s'estimer suffisamment soi-même pour mériter quelque chose. Voilà ce que j'aurais souhaité ajouter.
Alors Thomas Messias, vous débutez votre livre en évoquant l'excellent film Drunk de Thomas Vinterberg. Drunk met en scène une bande de quatre potes qui décident d'augmenter petit à petit, graduellement, leur consommation d'alcool pour vérifier la thèse selon laquelle l'être humain naît avec un déficit d'alcool dans le sang. Pourquoi n'aimez-vous pas cette vision de l'amitié masculine? Vous êtes assez sévère avec Drunk et avec d'autres films de potes, on y reviendra tout à l'heure.
Alors, c'est une vision qui m'intéresse. C'est un film qui m'intéresse et que je trouve plein de qualités. Et je trouve que ça pointe du doigt, même si ça aurait pu aller plus loin, ce qui me gêne dans l'amitié masculine et dans les groupes d'amis. C'est-à-dire qu'on a des quatre hommes adultes, instruits, qui, au nom de cette expérience, vont tout à coup oublier totalement le reste du monde, et y compris leurs épouses, leurs enfants, leurs élèves, et qui vont se consacrer uniquement à leur projet commun, à leur camaraderie, à leur amitié relativement virile et alcoolisée du coup. Et en fait, c'est assez représentatif de ce qui se passe où, pour beaucoup d'hommes, eh bien, le groupe d'amis et les meilleurs amis passent avant tout le reste. Et ce qui peut des fois inclure le fait de piétiner... des valeurs telles que le respect d'autrui et le respect des femmes, par exemple.
Alors, vous n'aimez pas non plus les films de potes à la française, comme Le Cœur des Hommes, hein. Vous êtes assez sévère sur ce film, Le Cœur des Hommes de Marc Esposito. Ces bandes masculines vous inspirent des sentiments assez négatifs, hein.
Oui, alors après, moi, je dans le livre, je raconte aussi un peu mon parcours personnel d'homme et de spectateur aussi. Moi, j'avais 20 ans quand le premier film Le Cœur des Hommes est sorti. Je l'ai vu en salle. J'ai même acheté le DVD après. C'est un film qui me plaisait beaucoup parce qu'il y a effectivement beaucoup de bonne humeur, des bons mots, des acteurs qu'on aime bien. Et puis, quand on regarde le film un peu différemment, avec peut-être les lunettes des lunettes différentes, un peu des questions liées aux questions de genre, bah on se rend compte que ces quatre hommes, ils sont quand même extrêmement égoïstes, que quand l'un trompe sa femme trois fois par jour, il est soutenu, et que quand l'autre est trompé une fois par sa femme, il est également soutenu, mais tout cela de façon totalement inconditionnelle. La femme trompée est qualifiée de harpie parce qu'elle réagit mal. La femme qui trompe une fois est qualifiée... elle subit tous les noms d'oiseaux possibles. Voilà, il y a vraiment ce côté inconditionnel. Et puis il y a aussi le fait que ces quatre hommes font les pieds dans la piscine sur les quatre affiches, enfin sur les trois affiches de la trilogie. Eh bien, pendant qu'ils sont en train de deviser joyeusement, eh bien leurs femmes sont au fourneau, en train de s'occuper des enfants, en train de gérer à peu près tout ce qui n'est pas de l'ordre de cette amitié masculine. Et ça, on en parle jamais.
Sonia Fairchak.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thomas Messias, mais en fait j'ai envie de dire, mais les filles peuvent être absolument pareilles, c'est-à-dire le binge drinking concerne aussi les femmes, et j'étais pas plus tard qu'il y a deux jours dans un bus où j'entendais derrière moi deux jeunes femmes qui racontaient leur soirée de beuverie et tous les troubles intestinaux qui s'en suivaient, et je veux vous dire que c'était pas glorieux, que les bandes de potesse peuvent être, je sais pas si on dit potesse, je trouve ça assez rigolo, peuvent être absolument effroyables de, comment dire, androphobie. Voilà, je pense que, alors c'est très difficile en fait de généraliser évidemment, je pense que le phénomène de bande, en fait, c'est le phénomène du groupe. Est-ce que c'était pas Brassens qui disait quand on est plus de deux, c'est ça?
Quatre.
Deux, je sais plus combien.
Plus de quatre.
On est con. Voilà, qui fait baisser peut-être le niveau de sensibilité évoqué par Nicolas Grimaldi.
Et d'ailleurs, à propos de films avec des bandes de potesses, comme vous le dites, je recommande Mes meilleurs amis, IES, hein, de Paul Feig, pour voir une bande de filles qui n'a rien à envier aux hommes. Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Oui, je rebondis sur ce que dit Sonia Fairchak. Je pense, vous savez, ces enterrements de vie de garçon, on en parlait avec l'extrait du film en tout début d'émission, ben, il y a maintenant les enterrements de vie de jeune fille. Ça, c'est vraiment un phénomène, je pense, qui est quand même assez récent, peut-être une quinzaine d'années. On a l'impression que les jeunes femmes aussi ont envie de cette espèce d'ambiance de vestiaire, comme ça, de dire ok, on se lâche, on est entre nous. Il y a un besoin aussi pour les filles, on y reviendra certainement, il y a le côté confidence, confiance, mais en groupe, alors là, probablement beaucoup plus restreint, mais ces bandes de filles, elles aussi, ont envie de s'amuser, ont envie de légèreté, et n'ont rien de ce point de vue-là envie aux garçons.
Thomas Messias.
Mais en fait, il est tout à fait normal qu'elles aspirent aussi à ça, au moins par moment, ou au moins pour certaines bandes de filles. Le problème, c'est que on a une société extrêmement sexiste qui autorise les hommes à, bah, par exemple, à pratiquer des enterrements de vie de garçons, ou à se montrer extrêmement bruyants en bande quand ils sont dans, sur les terrasses de café, par exemple, et qui, notre société l'accepte beaucoup moins, en tout cas, l'acceptait beaucoup moins. C'est peut-être en train légèrement de changer de la part des filles. Et effectivement, des filles qui font du bruit, des filles qui s'alcoolisent, des filles qui font des fêtes absolument débridées, il y en a, mais elles sont souvent beaucoup plus mal jugées, y compris par le cinéma d'ailleurs. Et du coup, les hommes dans les films on a l'impression qu'ils peuvent tout faire, y compris vraiment n'importe quoi, et ce sera toujours des sortes de héros et de modèles, alors que les filles sont tout de suite beaucoup plus déconsidérées dès qu'elles osent un petit peu se lâcher. Quoi.
Alors Thomas Messias, à la source de votre défiance pour les bandes de potes, pour la meute, hein, comme vous le dites dans votre livre, l'éducation genrée qui, je vous cite, prône l'agressivité et l'esprit de compétition comme valeur masculine, tandis que la verbalisation des sentiments et l'écoute sont considérés comme des qualités féminines.
Oui, bah en fait, ça commence extrêmement tôt. Ça commence, alors il y a même des spécialistes qui disent que ça commence dans le ventre de la mère, mais sans aller aussi loin, je dirais que ça commence dès la crèche ou l'école maternelle, ou en tout cas dès qu'on est en âge de parler, où on va effectivement confier aux garçons des jeux dans lesquels il sera question de victoire, de conquête, de domination, hein, que ce soit du sport ou autre. Et puis les petites filles, on va plutôt leur coller un poupon dans les bras et leur demander de s'en occuper, et donc d'être dans ce qu'on appelle le care, dans le fait de s'occuper d'autrui. On va aussi leur demander d'être plus discrètes, d'être plus calmes, de se faire moins voir. Et après, c'est quelque chose qui se répercute à tous les âges, y compris à l'âge adulte, et dans tous les domaines, donc dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine amical, où souvent, et encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser en 100% des cas, mais ça va être les hommes et les groupes d'hommes qui vont être les plus bruyants et souvent les plus pénibles.
Le regard de l'historien André Roche.
Alors le regard de l'historien, c'est sur la question de la fermeture de l'amitié. Donc dans le cœur des hommes ou les meilleurs amis, la fermeture, c'est véritablement une clôture. Enfin c'est pour ainsi dire quelque chose dont on ne se sort pas. Je pense que dans ce cas-là, l'amitié, c'est un refuge, c'est un monde qui s'est fermé pour ne pas laisser entrer les autres. Je ferai une deuxième observation, c'est qu'effectivement, l'amitié, où on fait partie des amis, où on n'en fait pas partie. Donc de ce point de vue, il y a une inclusion et une exclusion. Toutefois, la question se pose, par exemple, on évoquait tout à l'heure la question de l'enterrement des vies de garçons ou des vies de filles. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que le compagnon ou la compagne qui entre dans la vie d'un ami, elle va ou il va s'ouvrir à ce groupe qui existait antérieurement. Alors, évidemment, il peut y avoir une forte concurrence. Tous les romans du 19e siècle montrent que ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, où précisément les relations hommes-femmes ont tout de même beaucoup évolué, et où la fermeture hermétique du groupe de garçons à l'égard des femmes est tout de même de plus en plus rare, j'allais dire une rareté, ça mérite d'être considéré. Voilà ce qui me semble. C'est la question de l'amitié est-elle fermée ou prend-elle le risque de l'ouverture ? Car il y a un risque.
Alors Sonia Ferchak, j'aimerais avoir votre regard sur l'idée que les amitiés féminines seraient le lieu de la verbalisation des sentiments et de l'écoute. Des recherches scientifiques consacrées aux amitiés masculines montrent qu'elles seraient moins intimes que les amitiés qui relient les femmes. Le sociologue Kevin Dieter, qui a écrit une thèse sur la socialisation des garçons, montre que les garçons seraient moins entraînés que les filles à verbaliser leurs émotions. Parler de ses émotions, de ses états d'âme, ce serait, entre guillemets, remettre en question sa masculinité.
Alors oui, je pense que je ne saurais pas dire ce qui relève de l'inné ou ce qui relève de l'acquis, mais c'est vrai qu'en général, quand on observe autour de soi, les hommes verbalisent moins. Par contre, là où je pense, alors encore une fois, je suis une femme, hein, donc c'est pas facile de parler des amitiés d'hommes, mais j'ai le sentiment, en observant les hommes autour de moi, que leurs amitiés ne sont pas forcément moins intimes, mais l'intimité ne passe pas forcément par la verbalisation. Le manque de verbalisation de beaucoup d'hommes peut faire souffrir un grand nombre de femmes. Mais en revanche, j'ai l'impression que l'amitié masculine, en tout cas celle que j'ai pu observer, ne passe pas forcément par la verbalisation. Ça peut passer par le corps, ça peut passer par le sport, ça peut passer par simplement... Il y a des hommes qui expriment beaucoup, et des femmes d'ailleurs, par le silence. C'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant de me poser la question de finalement, l'amitié a-t-elle un sexe ? Moi, je pense que c'est pas si évident que ça. Et que par ailleurs, pour tout ce qui est, il y a vraiment une évolution. Je pense, même si je encore une fois, je souscris à ce que dit Thomas Messias. Je pense qu'il y a une vraie évolution et que il y a vraiment une prise de conscience, et notamment des très jeunes, de ce que peuvent ou ne peuvent pas les filles versus les garçons. J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup dépassé ça, et notamment à l'endroit de l'enterrement des vies de jeunes filles qui se donnent le droit de se lâcher et donc de ne pas verbaliser. Donc ça, c'est intéressant aussi.
Je cite Pietro, interrogé en 2020 par le site Slate. « Je ne suis jamais à 100% moi-même avec mes amis, même les plus proches. Je sais que si j'évoque mes sentiments, mes amis masculins vont me répondre que « c'est la vie », entre guillemets, et passer à autre chose. Et ce, peu importe si je parle d'une rupture avec une fille ou de ma mère qui est malade. » Sven Ortoli.
Je suis pas sûr qu'il y ait une différence aussi nette aujourd'hui. Dans le numéro de Philomag qu'on a consacré à l'amitié, il y a tout un débat qui a été organisé avec des jeunes gens, jeunes filles qui ont entre 20 et 30 ans, grosso modo. Ce qui m'a frappé le plus chez eux, c'est le sentiment qui gommait des choses qui pour moi étaient évidentes, à savoir qu'il n'y avait pas de désir entre des amis hommes, et je me posais pas vraiment la question avant, à mon époque, des désirs entre amis femmes. Et pour eux, c'était pas du tout le cas. Ils disent, si, bien sûr qu'il y a du désir. Et que lorsqu'on forme un groupe d'hommes et de femmes, enfin de jeunes hommes et de jeunes femmes, la question peut se poser. L'une des participantes me disait, moi j'ai déjà couché avec des amis. C'est des choses qui sont pour moi un peu éloignées, il faut bien dire les choses, mais que je commence à comprendre aujourd'hui, entre autres grâce à eux, à savoir qu'il y a une espèce de continuum, mais de la même manière...
Une fluidité
qui correspond aussi au fait que la genrisation, ce que vous évoquiez à l'instant... l'aspect genré de l'amitié, aussi commence à devenir un continuum que une marque stoppée, quoi.
Thomas Messias.
Oui, on est dans une période où effectivement on a une fluidité qui est en train d'arriver, donc et qui est, il est souhaitable que cette fluidité elle s'inscrive également dans les rapports amicaux, mais je pense qu'on en est encore qu'au début. Et que moi qui suis également prof en lycée, je le constate en observant mes élèves à l'abord des salles de classe ou même un peu dans la cour de récréation. Déjà, il y a quand même le fait que il y a des groupes de garçons d'un côté, des groupes de filles de l'autre, et que certains groupes sont mixés, mais qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que l'idée c'est d'aller vers les gens qui entre guillemets nous ressemblent, en tout cas en termes de genre. Et on a quand même, il y a des études aussi qui ont montré que dans les cours de récréation, et c'est pas uniquement à cause du ballon de foot, mais il y a les garçons qui sont au centre, qui sont dans une domination physique et géographique de l'espace, et les filles qui sont sur les côtés en périphérie, condamnées à raser les murs et à ne pas se faire trop remarquer. Et c'est des choses qui sont, je pense, en train de s'estomper, mais il va falloir, à mon avis, beaucoup de temps pour qu'on arrive à une vraie égalité, une vraie équité sur ces questions-là.
Allez, on continue à explorer l'amitié masculine. N'hésitez pas à réagir, à débattre avec nous au 01 45 24 7000 ou bien en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Allez, on écoute une bande de potes qui a pas trop réussi, les Beatles. With a little help from my friend.
I get
toute la jeunesse de Marie-Laure Zonneschein.
Ah, oui.
Les Beatles, with a little help from my friend.
Qui c'est, Jules?
C'est moi.
Et vous?
Jim.
Grand bien vous fasse.
Jim et Jules, alors?
Ali Rebéi.
Ben non, Jules et Jim.
Sur France Inter.
10h33 et on s'intéresse ce matin à l'amitié masculine avec le hors-série de Philosophie Magazine consacré à l'amitié. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000.
Pour vous, qu'est-ce que l'amitié?
Jolie question.
L'amitié, c'est un lien déjà. C'est un lien d'amour. C'est un lien comme il peut exister entre frères.
Eh bien, c'est le fait de vouloir du bien à quelqu'un et en même temps, dans la mesure où ça vous fait plaisir, et avec une certaine fidélité.
C'est un peu mal dit, c'est l'amour entre deux personnes qu'on connaît, qui ne sont pas forcément de la même famille et qui s'aiment bien entre deux.
C'est de l'amour.
C'est de l'amour.
Mais sans le côté physique.
Voilà.
Pour moi, c'est des gens qui restent soudés ensemble, qui ne s'abandonnent pas, et puis qui passent de bons moments ensemble, et c'est des personnes avec qui on peut toujours compter.
Il y a simplement des pudeurs ou des réserves. On va peut-être pas dire entre hommes combien on est heureux d'être avec la personne.
Moi, pour l'amitié, c'est surtout des personnes comme toi, où ils sont toujours là pour toi. Enfin, pas toujours.
Je dirais tout. Comme nous, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, on se dit tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mur, on ne cache rien. Tout est caché.
Propos recueillis par Victorien Thomas dans les rues de Paris. On reçoit beaucoup de messages. Tiens, Manuel, qui nous dit sur la page Facebook, je trouve dommage de diviser les groupes d'amis et groupes d'amis IES. Pour moi, l'amitié n'a pas de genre. Puisqu'il s'agit d'un amour sans désir, pourquoi genrer? Et puis Evelyne nous écrit, c'est un constat que j'aimerais vous faire partager. J'ai vu des amitiés masculines très belles, plus vraies, plus sincères que les amitiés féminines, sans jugement, sans comparaison, sans rivalité. Je n'ai pas eu ce type de relation avec une femme. Par contre, j'ai eu de très belles amitiés avec des hommes. Tiens, qu'est-ce que ça vous inspire, Thomas Messias, vous qui publiez À l'écart de la meute, sortir de l'amitié masculine?
Alors, je pense que effectivement, quand on décrit un système, je suis clairement d'accord pour dire qu'il y a des exceptions et que même elles peuvent être nombreuses et qu'il est possible de s'épanouir et de tirer le meilleur d'une relation d'amitié avec un homme ou avec des hommes. C'est juste que j'ai l'impression que c'est plus compliqué à trouver pour obtenir quelque chose de satisfaisant. Et puis par ailleurs, pourquoi cloisonner? Pourquoi renvoyer les genres dos à dos? Regardez ce que fait le cinéma, par exemple, ou ce que font les séries, même si les séries récentes de chez Netflix, par exemple, ont tendance, elles, à fluidifier, mais on a des films de potes, donc Le corps des hommes, et les films de Judd Apatow, par exemple, donc avec que des hommes, et puis de l'autre côté, on a, de façon beaucoup plus rare d'ailleurs, des films comme Mes meilleurs amis, que vous citiez tout à l'heure, où on a des groupes d'amis femmes. Les amitiés mixtes, elles, sont... Il y en a aussi au cinéma, Les petits mouchoirs, par exemple, mais elles sont beaucoup moins mises en valeur. Et pourquoi? C'est parce que, en réalité, dans la vie, elles sont beaucoup moins fréquentes. Cette division entre les hommes et les femmes, c'est pas moi qui la crée. Elle existe réellement, même si, évidemment, elle n'est pas généralisable à 100% des cas.
Sonia Ferchak, je rappelle que vous êtes écrivaine.
Moi, là où je souscris aussi Thomas Messias, c'est que et vous êtes professeur, donc vous le voyez, c'est que la bande, notamment le phénomène de groupe. C'est vrai que quand notamment les adolescents, ils manquent un peu de confiance, ils sont sans carapace, comme disait Catherine Dolto, à ce moment-là, l'appartenance à un groupe renforce une certaine confiance en soi, en tout cas l'illusion de la confiance en soi, et c'est là où les bandes peuvent être extrêmement excluantes, surtout à l'adolescence, et les bandes de garçons, c'est vrai, hein, toute fille a parfois fait un détour pour éviter une bande de garçons, c'est tout à fait juste parce qu'il y a cette idée peut-être dans la bande de gommer un peu les individualités et la sensibilité et d'être plus dans la puissance, dans l'efficacité, même d'un point de vue animal, hein, les animaux se regroupent en bande pour être plus efficaces dans la chasse. Et ça, c'est vrai que ça existe et c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais je pense que c'est certainement que dans les cours de lycée, on voit beaucoup ça. J'ai l'impression que même au cinéma, ça a quand même un peu changé. Je pensais en commençant l'émission là à ce très beau livre de Joyce Carol Oates qui s'appelle Confession d'un gang de filles, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Ce phénomène existe aussi de on est plus forte.
Alors Thomas Messias, vous avez appartenu à plusieurs groupes d'amis masculins et vous dites, hein, c'est assez fort, que ça a contribué à faire ressortir le pire de vous-même. Pour vous, le groupe d'amis garçons agit comme, je vous cite, un révélateur de côté obscur.
Oui, c'est-à-dire que quelle que soit notre nature et notre caractère, et à moins d'avoir une volonté vraiment de faire, ce qui n'a pas toujours été mon cas, on a envie d'être intégré dans la bande de garçons à laquelle on est invité à participer. Et pour être intégré, il y a plusieurs façons. On peut essayer de s'accomplir par le sport. C'est vrai que si on est très sportif et si on est meilleur au foot, en général, on va être tout de suite un peu populaire, mais il y a aussi, on va pouvoir être populaire par d'autres façons, en étant le plus séducteur, donc celui qui va avoir le plus de conquêtes, ou en tout cas raconter qu'il a le plus de conquêtes. On peut être le plus sexiste, parce que les blagues sexistes et graveleuses marchent extrêmement bien dans énormément de groupes de garçons. Et donc, quand on se rend compte comme ça, qu'en développant des valeurs négatives, et donc entre autres du sexisme ou de l'intolérance vis-à-vis de tel ou tel groupe, ça fonctionne et qu'on gagne en popularité et qu'on monte dans la hiérarchie de ce groupe d'amis, parce qu'il y a une hiérarchie, on a tendance à continuer dans cette voie-là. Et donc, même si c'est pas notre vraie nature de base, on a parfois tendance à se compromettre et à faire ressortir le moins bon de soi-même.
André Roche, je rappelle que vous êtes historien.
Oui, je trouve que ce que vient de dire Thomas Messias montre bien, même si parfois c'est sous la forme de la caricature, ce en quoi le groupe, la bande peut être fermée. Et puis, en l'écoutant, je me suis souvenu de ce que disait tout à l'heure Sven Ortoli à propos du désir, et je pense qu'il s'agissait du désir sexuel. Comment entre-t-il dans l'amitié? Et là, j'ai une petite anecdote qui serait la suivante. Dans les années 50, quand les mères regardent leurs fils, et en particulier leurs fils en compagnie de leurs copains, s'ils jouent au foot, au baby-foot entre garçons, elles sont rassurées. Par contre, dans les années 60, elles commencent à s'inquiéter lorsque leur fils ne fréquente que des garçons. Et puis ensuite, ou plutôt quand il ne fréquente pas de filles. Ensuite, la terreur va les saisir lorsque on va commencer à parler de l'homosexualité. Et aujourd'hui, on est dans un contexte totalement différent, parce que elles souhaitent que dans tous les cas, quoi qu'il advienne, ils se sentent heureux. Autrement dit, ils trouvent en eux-mêmes cette estime de soi qui leur permet de réaliser ou de vivre ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur désir.
Thomas Messias, c'est très intéressant ce que nous dit André Roche. Hein.
Oui, c'est très intéressant. Après, moi, je constate, et notamment dans le livre, j'utilise à nouveau des exemples cinématographiques parce qu'ils peuvent être très parlants, je constate qu'on a quand même parfois une homophobie intériorisée, notamment chez les garçons et dans les groupes de garçons, où on va pas tolérer le moindre contact physique avec l'autre, ou on va pas tolérer non plus, le groupe ne tolère pas qu'on ait une amitié plus particulière, plus poussée avec l'un des garçons, parce que assez rapidement et assez fréquemment, on va être entre guillemets suspecté d'homosexualité. Si on a une relation intime qui est de l'ordre plus du avec vraiment une révélation de notre sensibilité à l'autre avec un autre garçon, tout de suite on va être pointé du doigt, parce que un garçon, selon les codes un peu établis par notre société, c'est pas censé avoir des relations aussi fines et sensibles et délicates, et donc c'est forcément, je mets encore des guillemets, suspect. Et donc, il y a cette homophobie intériorisée qu'on retrouve dans pas mal de films, qu'on retrouve dans Les Petits Mouchoirs, qu'on retrouve dans certains films de Judd Apatow, où effectivement, on est des potes et on est hétéro et on peut surtout pas être autre chose. On est quasiment obligé d'être hétérosexuel quand on appartient à ce genre de groupe.
D'ailleurs, vous précisez dans votre livre, vous écrivez un avertissement de l'auteur, vous considérez comme un homme cisgenre hétérosexuel, c'est ça, hein?
Oui, oui, tout voilà, à fait.
Ça permet de comprendre d'où vous parlez, entre guillemets.
Oui, oui, exactement.
André Roche.
Oui, je voudrais répondre à ce que vient de dire Thomas Messias, qui m'intéresse vivement. Si je comprends bien, il parle des gestes entre garçons, entre hommes, etc. C'est-à-dire des rituels. Je pense que dans les années 70-80, un garçon, lorsqu'il rencontre un copain, un pote, etc., il lui serre la main, éventuellement, il lui bourde l'épaule d'un bon coup de poing pour montrer le fait qu'ils se rencontrent. Aujourd'hui, les choses semblent, de ce point de vue, s'être beaucoup modifiées.
C'est vrai.
Et je crois que très souvent, les garçons, et en particulier les jeunes gens, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils s'embrassent. Autrement dit, ce n'est pas un baiser érotique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du contact et qui ne suppose plus, comme c'était le cas antérieurement, qu'il y ait une sorte de manière de repousser l'autre tout en l'attirant, c'est-à-dire de lui donner un coup de poing ou de lui donner une bonne claque sur les épaules. Ce sont des gestes, des rituels qui comptent énormément au premier moment où on retrouve un ami, un copain, un camarade.
Et Antoine nous écrit « Il me semble, une abondante littérature permet de l'affirmer, que l'amitié entre hommes hétérosexuels et entre hommes gays est très différente. Beaucoup d'hommes homosexuels pratiquent l'amitié comme un rapport familial intime et profond pour échapper aux normes dominantes de la société, c'est-à-dire le modèle familial patriarcal. Les représentations de cette amitié sont nombreuses, comme dans les romans d'Amistad Maupin ou d'Edmund White. » Allez, il est temps de retrouver mon copain, Christophe André, les choses vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Hier, face à un énorme plantage de ma box internet, je me disais, très affligé, c'est quand même dur la vie. C'est vrai que c'est dur, mais pas seulement à cause des pannes et des soucis matériels. Heureusement qu'il y a plein de belles expériences pour nous la rendre supportable. Rencontrer le grand amour, avoir des enfants merveilleux ou des chouettes amis. Mais dans la vraie vie, ces belles expériences sont-elles aussi formidables vues de près? Sont-elles des réalités ou des contes de fées? Prenez l'amour. Au quotidien, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi que les partenaires amoureux fassent tout un tas d'efforts. La parentalité, c'est merveilleux vu de loin, mais vu de près, être des parents parfaits, d'enfants parfaits, c'est assez compliqué. Le risque de ces visions idéalisées du couple ou de la famille, c'est qu'après en avoir trop espéré, on en soit trop violemment déçu, voire dégoûté. Ou qu'on se sente inférieur ou incompétent, pas capable de vivre heureux auprès de son conjoint ou de ses enfants. Heureusement, il reste toujours un recours, les amis.
Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Et doua, didi, doua, didam, dididou. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Et doua, didi, doua, didam, dididou. Tous ensemble, tous ensemble, on est bien,
on est bien.
Tous ensemble, on est bien, bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment.
Ah, l'amitié, dernier refuge pour vivre des bonheurs simples, sans effort ni arrière-pensée. Eh bien non, désolé, le mythe de l'amitié qui ne déçoit jamais est fait de la même eau que ceux de l'amour parfait ou des familles en or. Il est mensonger. L'amitié est une expérience formidable, mais elle comporte aussi ses dangers, notamment les bandes d'amis, et notamment les bandes d'amis mâles. Alors, sans doute est-ce vrai aussi pour les filles et les autres, mais je m'en tiendrai à mon sujet du jour. Comment éviter qu'une bande de copains ne se transforme en meute de crétins? Aujourd'hui, sous la pression notamment des courants de pensée féministes, de nombreuses critiques sont adressées aux groupes de garçons. Lorsqu'on se retrouve entre hommes, on peut avoir tendance à tous se tirer vers le bas, à dévaloriser les femmes et les homosexuels, à bloquer ses propres émotions et à se moquer de celles des autres, à montrer ses muscles, et à tout permettre et tout pardonner aux gros bourrins du groupe au nom de l'amitié. Nous voilà loin de l'idéal de la bande de copains, idéal dans lequel j'ai grandi, comme la plupart des garçons de ma génération. Du coup, ces remises en question me bloquaient au début, me perturbaient. Bien que solitaire, j'avais toujours aimé me retrouver de temps en temps dans des bandes de potes, sans avoir le sentiment que nous représentions un problème potentiel. Mais
il faut toujours écouter les critiques, même si elles sont désagréables. Comme dans la fable de La Fontaine, l'ours et l'amateur des jardins, que je vous encourage à relire, et dont voici la morale. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. Car finalement, la sagesse, c'est de prendre le temps de réfléchir aux risques qui menacent toujours les bandes de bons copains. Se transformer en groupe de braillards énervés et décérébrés au nom de l'amitié et de la virilité. On n'est pas des gonzesses, merde. Ce sera un progrès que d'apprendre à faire le tri, à recadrer les plus énervés, voire à quitter les groupes que l'on n'arrive pas à changer. Et à se consoler tout de même en se disant que l'amitié, la saine et belle amitié, elle existe, mais qu'elle est plus facile à faire vivre sans doute entre deux amis qu'au sein d'un troupeau. Comme, entre tant d'autres, l'amitié entre le poète René Char et le philosophe Albert Camus. Dans leur correspondance, Char écrit ceci à Camus. « Je pense souvent à vous, à notre amitié. » Le temps relâche alors son hostilité. Mes mains ne sont plus tristes. Un peu d'enfance et de maquis réchauffe mon cœur perdu. Cette amitié-là, on l'apprend, n'est-ce pas ?
Et oui, vous pouvez podcaster, partager les choses vues de Christophe André sur l'appli France Inter. Allez, on continue à explorer l'amitié masculine juste après Malik Djoudi.
Montre-moi ton point sensible.
Malik Djoudi interprété Point Sensible.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h51 et on s'intéresse ce matin à l'amitié masculine. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale comme Nathan.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais parler de la validation du groupe d'amis masculins. Validation de compagne, d'idées, de propos. Cette idée finalement de devoir correspondre et d'être dans un moule par rapport à ce groupe. Aujourd'hui, je redécouvre une amitié, autant avec des femmes qu'avec des hommes, avec lesquels je peux m'exprimer sur des tas de sujets profonds, mes émotions, mes défauts. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse être capable de dépasser ces injonctions sociales que l'on voit, notamment à travers les médias, par exemple.
Thomas Messias, je rappelle que vous avez écrit, que vous publiez à l'écart de la meute sur ce que vient de nous dire Nathan.
Oui, effectivement. Enfin, il dit très bien que la pression du groupe, et d'ailleurs, effectivement, on peut aussi l'étendre parfois à d'autres groupes, y compris féminins ou mixtes. Elle est très importante et que il est important pour chacune d'entre nous de travailler
pour ne plus être victime de ces injonctions, pour ne plus en dépendre au quotidien. C'est ce qui fait qu'on peut être réellement nous-mêmes et qu'on peut être réellement une bonne, une meilleure personne.
Et vous militez pour des amitiés masculines à deux, je vous cite, tout seul on n'est pas une meute. Vous dites que dans une relation amicale à deux, il n'y a pas de public devant lequel être en représentation.
Oui, en fait, on constate que dans les... Alors, encore une fois, hein, ça peut marcher aussi dans d'autres groupes, mais on a du mal à se confier réellement et à dire vraiment qui on est quand on est beaucoup trop nombreux autour d'une table, parce qu'il y aura assez souvent un regard extérieur qui va venir nous juger, qui va venir se moquer. À deux, si la personne en face est bien choisie, ça ne se passe pas comme ça. Et on peut vraiment dire qui on est, on peut dire quels sont nos torts, quels sont nos travers, quelles sont nos idées noires, on peut dire le bon et le moins bon, et l'autre est censé être là comme un miroir qui va nous apporter des éléments pour nous aider, qui va être critique potentiellement, qui va aussi nous consoler si on en a besoin ou nous soutenir. Et en tout cas, on n'aura pas de regard extérieur qui va venir ternir cette relation.
Sven Ortoli, sur les amitiés masculines à deux dans l'histoire de la philosophie, vaste sujet.
Donc en une minute, l'histoire de la philo, 2000 ans d'histoire de la philo. Ça commence avec le mot même philosophie, hein. Philosiomer, c'est philosophie, l'ami de la sagesse. Donc c'est au cœur de la problématique de tous les philosophes. Et puis ça se prolonge avec Platon, Aristote, avec Aristote qui dit fameusement, j'aime beaucoup Platon, c'était son maître. Enfin, on n'a pas parlé des amitiés maître-disciple, c'est aussi une question importante, mais je préfère encore la vérité. Et puis le christianisme arrive et il dit tout le monde s'aime, donc les amis c'est moins important, et puis ça recommence. Enfin, donc tout ça pour vous dire que l'amitié c'est un problème de philosophie fondamentale qui traverse toute cette histoire, et donc c'est un problème essentiellement masculin, parce que l'histoire de la philosophie, oui, est d'abord une histoire masculine. Pourquoi c'est une histoire masculine? Pour des raisons évidentes de domination classique, et du fait qu'on a effacé, oublié ou mis de côté tout ce qui pouvait être fait par l'autre moitié de l'humanité. Mais c'est un autre débat, mais c'est un débat intéressant, parce que ça... Dans l'histoire de l'amitié, on en reste toujours aux mêmes formules. Vous savez, sur la formule qui est factuelle de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, on n'a pas trouvé beaucoup mieux, mais ça ne définit pas l'amitié. Mais voilà, donc je peux la traverser en courant, à pied, à cheval, à cloche-pied, l'histoire de l'amitié. Elle sera beaucoup masculine et elle est en train de devenir féminine.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, alors sujet qui fâche, l'amitié parfois, eh bien, elle s'arrête. Ces causes de rupture amicale entre hommes, est-ce qu'elles ont évolué à l'aune des changements de société, Thomas Messias? Je pense la phrase de trop, vous en parlez dans votre livre, le commentaire déplacé, est-ce que ça remet en question une amitié alors qu'hier il fallait une trahison, un événement absolument effroyable pour que des amis se quittent? Aujourd'hui, on a l'impression que finalement le seuil de tolérance des erreurs ou des manquements a changé.
Thomas Messias.
Je pense que la phrase de trop, elle est encore très très peu à l'origine de ruptures amicales, notamment chez les garçons. D'ailleurs, la rupture amicale n'est pas quelque chose de très répandu, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vécu de façon très violente par les gens qui en vivent une. On a déjà... disons que c'est compliqué pour un garçon qui voudrait effectivement être conforme à des valeurs antisexistes, proféministes, etc. C'est compliqué pour lui de s'élever dans son groupe, au sein de son groupe, et de dire « Non, mais les mecs, ça suffit. » On arrête ce genre de propos, on arrête de considérer les filles comme des morceaux de viande et on va essayer de se comporter mieux. C'est très compliqué parce qu'en général, si on est seul contre les autres, contre la meute, on est raillé, on est mis de côté, on n'est plus invité. Voilà. Et donc, l'autre méthode qui est extrêmement radicale, c'est de se dire... Ces peines perdues, ces garçons sexistes avec lesquels j'ai été ami, avec lesquels j'ai cru être ami, eh bien, je vais m'en détacher complètement. Et ça peut être extrêmement violent à vivre, mais parfois, c'est une solution un peu désespérée, mais qui est la seule, en fait.
Juste en un mot pour réagir à ce que vous venez de dire. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour un oui, pour un non. Ou art, la pièce art qui explique ça. C'est-à-dire, c'est un mot mal placé qui, tout d'un coup, mal placé ou au contraire trop bien placé, qui fait que on a touché à quelque chose de tellement essentiel qu'il est très difficile de ne pas être dans la rupture. Et dans le numéro de Philomag, Francis Wolff en parle. Un type l'a vexé parce qu'il a dit que je sais plus ce que c'était. Sa thèse était un peu débile. Enfin, pas débile. C'était dans les termes plus châtiés, mais ça n'allait pas, que c'était pas très intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le voir. Et il m'a dit, pour moi, c'est comme ça qu'on s'en sort, par le haut. Mais ils sont pas nombreux à sortir par le haut.
Et Sonia Fairchak, je recommande votre papier dans Philosophie Magazine consacré à la rupture.
Oui,
en quelques mots, il nous reste une poignée de secondes.
C'est juste parce que, pour rebondir à ce que dit Thomas Messias sur le miroir, c'est que les amis, on se tend des miroirs les uns aux autres, et il est vrai que les rapports de force, ils sont plus nombreux dans la bande, mais il peut y avoir aussi un rapport de force qu'on n'a pas vu arriver entre deux amis, hommes ou femmes, et que ça peut être très douloureux.
Merci beaucoup Thierry Messias. Je recommande À l'écart de la meute, sortir de l'amitié masculine, et j'ajouterai privilégier les amitiés à deux. Merci beaucoup Sonia Fairchak, merci André Roche. On peut lire avec profit votre histoire du premier sexe en poche chez Pluriel. Merci aux équipes de France Bleu Alsace à Strasbourg. Merci Sven Ortoli. Leur série Philosophie Magazine consacrée à l'amitié est toujours disponible en kiosque. Demain, nos experts vous fourniront des conseils pratiques pour améliorer votre mémoire à l'école, au travail, à la maison, en compagnie de Sylvie Chocron et Anne de Pomereux.